Il ne fait qu'un avec lui. Et par elle, il va répandre sur le monde entier les grâces de la rédemption. Par elle, il va engendrer une multitude de frères qui remplira, siècle après siècle, le ciel de saints et qui chanteront éternellement les miséricordes de Dieu. C'est ce que dit le prophète Isaïe dans la lecture de la messe du mercredi saint. En donnant sa vie pour les péchés des hommes, il verra après lui une longue postérité. Il verra le fruit de son labeur et en sera rempli de joie. Par sa propre justice, mon serviteur justifiera un grand nombre d'âmes dont il portera sur lui les fautes. C'est pourquoi je lui donnerai pour héritage une grande multitude. Après ces quelques considérations, les yeux fixés sur le calvaire, nous pourrons mieux en recevoir l'enseignement qu'il nous donne. La croix de Jésus est une chaire de vérité. Que voyons-nous sur le mont Calvaire ? Trois croix, comme l'a dit saint Jean dans la lecture de la Passion. Celle de Jésus au centre et de chaque côté, deux croix, celle des deux larrons. Ce n'est pas un hasard. Ces deux larrons représentent la multitude des hommes pécheurs. Leur péché les a condamnés à la mort. Jésus, au centre, a été condamné injustement à la mort. Librement, il accepte de mourir pour payer la dette de nos péchés et nous laver de nos souillures, pour enfin nous rétablir en amitié avec Dieu et nous donner la vraie vie. Jésus donne d'abord un enseignement muet par sa patience à souffrir ses cruels tourments. Les deux larrons peuvent le voir pendant de longues heures, l'observer. Les horribles tortures peintes au vif par saint Laurent Justinien. Donc ces tortures, voici ce que dit le saint. Notre divin médiateur, cloué au bois de la croix, n'avait absolument rien pour adoucir sa douleur. Angoisse au-dedans de lui-même, son corps couvert de plaies au dehors. Il n'entendait autour de lui que des paroles outrageantes. Dès qu'il bougeait la tête, les épines s'enfonçaient davantage. Voulait-il soulager son corps épuisé en s'appuyant sur ses pieds transpercés ? Quelle torture effroyable ! Voulait-il procurer à ses pieds quelque allègement en tirant sur ses bras ? Cela augmentait cruellement les souffrances des mains. Et cette description n'est qu'un petit échantillon des souffrances de Jésus. Les études faites sur le Saint-Suaire ont permis de mieux les connaître et d'en mesurer la violence. Pendant que Jésus souffre en silence, les deux larrons crient, gémissent, blasphèment. Quel contraste ! La prédication silencieuse de Jésus est la même pour les deux. Mais l'un, touché par l'exemple de Jésus, reconnaissant ses fautes, va implorer la miséricorde de Dieu. L'autre va continuer à se révolter et à refuser cette mort que la Providence lui avait ménagée pour le sauver. Tout homme doit faire le choix devant la croix qui se présentera nécessairement à lui tout au long de sa vie ici-bas. Ou la rejeter comme le mauvais larron, mais il ne la supprime pas. Au contraire, il l'alourdit et elle le conduira à la mort éternelle. Ou alors l'accepter comme le bon larron en implorant la miséricorde de Dieu et elle le conduira à la vie éternelle. Cette prédication en silence de Jésus cloué à la croix est entrecoupée d'une prédication en parole. Ce sont les sept paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Et rappelons-le, en éprouvant des souffrances tant de l'âme que du corps d'une telle intensité qu'elles auraient rendu tout autre homme incapable de prononcer une parole avec une parfaite maîtrise de soi. Jésus, du haut de la croix, dirige les événements. Il accomplit jusque dans les détails tout ce qui était dit de lui dans les Saintes Écritures. Les paroles qu'un homme sur le point de mourir adresse à son entourage sont des paroles fortes, un enseignement essentiel de ce qu'il veut transmettre à ceux qu'il aime. Alors écoutons quelques-unes de ces paroles que nous enseigne la sagesse éternelle sur la croix. La première parole est une parole de pardon. Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces paroles s'adressent à ses bourreaux, ceux qui l'ont condamné, ceux qui l'ont frappé, cloué à la croix, ceux qui se moquent de lui et l'insultent. Ils ne sont pas les seuls concernés. Tous les pécheurs jusqu'à la fin du monde le sont et nous en faisons partie. Chaque fois que nous péchons contre nos frères, c'est Jésus que nous condamnons, c'est Jésus que nous insultons, que nous frappons. Comme il l'a dit à saint Paul sur le chemin de Damas, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Par nos péchés, nous devenons ennemis de Jésus-Christ. Nous devenons comme les bourreaux, bons pour la géhenne de feu. Par cette prière, notre Seigneur nous mérite le pardon de nos fautes. Si notre Seigneur a pardonné à ceux qui l'ont réduit à un tel supplice, qui oserait désespérer de son pardon ? Que crains-tu, pécheur ? Dit saint Thomas de Villeneuve. Comment pourrait-il te condamner si tu regrettes ta faute ? Celui qui est mort pour que tu ne sois pas damné. Comment pourrait-il te rejeter, toi qui reviens comme l'enfant prodigue, celui qui est venu du ciel pour te chercher ? Cette première parole de Jésus en croix nous enseigne à ne jamais désespérer du pardon. Même Judas aurait été pardonné s'il avait cru à la miséricorde infinie de son maître. Cette parole nous enseigne aussi à ne jamais céder à la haine et à la vengeance, mais à rendre le bien pour le mal. Jésus a voulu, sur la croix, illustrer, mettre en pratique ce qui nous a enseigné dans le Notre Père. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, si nous ne pardonnons pas, Dieu ne peut pas nous pardonner. Alors, si nous nous obstinons dans notre refus de pardonner, la conséquence sera terrible, c'est la mort éternelle. Pardonner, c'est une chose difficile. Il faut la foi et une grande grâce pour y arriver. Le pater des Vendéens, Chemillé, est un beau témoignage pour illustrer cela. Vous vous rappelez certainement l'histoire. Après avoir remporté une belle victoire au Pont Barré, et fait beaucoup de prisonniers, l'armée vendéenne arrive à Chemillé, au moment où sonne la cloche de l'église. Le général en tête, toute l'armée se met à genoux, fait le signe de la croix et récite le Notre Père. Arrivé au mot « Pardonnez-nous nos offenses », le général se lève. « Vous ne pouvez pas dire ces paroles si vous voulez tuer les prisonniers. Ce serait mentir à Dieu. » Tous les soldats avaient été victimes de graves dommages de la part des soldats républicains. L'un avait eu sa ferme brûlée, l'autre sa femme et ses enfants tués, un autre ses moissons brûlées, etc. Ils avaient tous des choses comme cela à finalement sur le cœur. Le désir de vengeance était grand dans leur cœur. Mais ils étaient tous de fervents catholiques. Après un long temps de silence, le général les regarde, demande s'ils pardonnent et veulent laisser partir les prisonniers. Quelques oui du signe de la tête se font, puis gagnent toute l'armée. Le général, imité par ses hommes, se remet à genoux et termine Notre Père. Ils ont pardonné dans leur cœur aux soldats qui ont massacré leurs proches. La troisième parole est une parole d'amour. Femme, voilà votre fils. Fils, voilà ta mère. Par ces paroles, Jésus fait de Marie la mère de tous les hommes selon la grâce. En nous donnant Marie, il veut nous entourer de toute la tendresse maternelle de son amour pour que nous puissions, sous sa conduite, parvenir plus facilement à la sainteté nécessaire pour entrer au ciel. Saint Jean, qui nous représente, a reçu Marie dans sa maison. Alors, recevons-la dans notre cœur, afin qu'elle dirige toute notre vie vers Jésus. La septième et dernière parole est une parole de filial abandon. Père, je remets mon âme entre tes mains. Et juste avant cette parole, Jésus avait dit « Tout est consommé ». Sa mission est achevée. Il peut rendre son âme à son Père. En disant cette dernière parole, il poussa un grand cri. C'est ce qui étonna le centurion. Celui-ci avait l'habitude des crucifixions. Il savait que quand un crucifié meurt, il est dans un état de faiblesse tel qu'il ne peut articuler aucune parole. D'où son étonnement et cette exclamation « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Par cette mort parfaitement maîtrisée, malgré des tourments indicibles, Jésus nous a mérité la grâce de bien mourir, de faire de notre mort un sacrifice uni au sien. Pour nous, c'est moins difficile, car Jésus nous a donné le secours des sacrements, l'extrême onction, alors que lui n'a voulu aucune consolation. Mais pour bien préparer notre mort, il faut dès maintenant apprendre à nous abandonner entre les mains de Dieu, c'est-à-dire à sa volonté, chaque jour. Cela nous demande des petites morts quotidiennes, mort au péché, mort aux attraits du monde, à notre volonté propre. Alors demandons à Notre-Dame de la compassion, qui s'est tenue debout jusqu'au bout au pied de la croix, qu'elle obtienne de son Fils crucifié de graver toutes ses vérités dans nos cœurs afin que nous les pratiquions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.